Donc, je vais inviter maintenant Pasteur Richard pour le message de la parole ce matin.
Bon, bonjour, frères et sœurs.
Donc, nous avons étudié la semaine dernière un passage très touchant de la vie de Jésus, où il passe ses dernières heures avant son arrestation sur le mont des Oliviers dans le jardin de Gethsémané, avec ses disciples pendant un temps et même pendant un temps à l'écart. Il implore son Père, il crie à Dieu que si c'est possible que cette coupe s'éloigne de lui. Mais finalement, c'était le plan de Dieu. Il doit boire cette coupe. Et il est dans la prière, rempli d'angoisse. Il sait qu'est-ce qui l'attend. Il sait qu'il va être saisi, torturé, interrogé, jugé et éventuellement même mis à mort. Mais même à ce moment-là, dans un temps d'angoisse, il se soucie de ses disciples. Et on voit le cœur de Jésus plein d'amour, irréprochable dans ses sentiments. Jamais qu'il tombe dans l'égoïsme. Il se soucie toujours de ses disciples, il se soucie même de ses ennemis. Alors que Judas arrive à la tête d'une foule pour le livrer, il donne un dernier avertissement à son disciple qui a vécu avec lui pendant 3 ans. Un dernier avertissement avant qu'il soit trop tard. Mais on sait que Judas va faire la sourde oreille. En plus, c'est l'un de ceux qui vient pour le saisir, un des serviteurs qui est dans l'altercation, se fait couper l'oreille, et Jésus le guérit. Donc, même il pense à ses ennemis dans un temps pareil. Et c'est une foule armée qui vient le saisir, comme s'il était un dangereux criminel et qu'il faut prendre toutes les précautions, comme si une délégation de la GRC débarquait là, pour aller saisir quelqu'un qui est un dangereux criminel, un évadé de prison. Et pourtant, Jésus est innocent. Il ne fait de mal à personne. Et même, il prouve qu'il continue à faire du bien alors qu'il est accusé. Et on saisit Jésus. Pourquoi que Jésus s'est laissé arrêter? Pourquoi il s'est laissé prendre? Mais on comprend que ça faisait partie de la mission que Dieu lui a confiée. C'était le plan de Dieu qui devait s'exécuter. Et Jésus, même parfaitement humain comme nous, saisi d'angoisse, lui aussi, il a l'instinct de survie le même que nous. Mais il demeure parfaitement soumis à son Père qui lui a ordonné de venir sur terre mourir pour nous. Donc, ça faisait partie de la mission. Et on comprend que c'est en tant qu'envoyé de Dieu, en tant que prophète, finalement, qu'il accomplit cette mission-là. Son ministère, dans tout l'Évangile de Luc, est montré comme étant un ministère prophétique. Il vient, un prophète envoyé par Dieu le Père, par l'Éternel, à son peuple Israël. Et dans tout l'Évangile de Luc, Jésus est présenté comme un prophète. Si vous tournez avec moi au chapitre 4 de l'Évangile de Luc, on fait juste un petit retour en arrière. Dans Luc 4, verset 24, c'est lorsque Jésus s'était rendu en Galilée, au début de son ministère, et il était dans son patelin, là. Il était dans sa patrie, à Nazareth, mais il a été rejeté, même on voulait le jeter en bas de la falaise. Et il dit au verset 24, « En vérité, je vous le dis, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. » Donc, il suit finalement la tradition de tous les prophètes de l'Ancien Testament qui ont été rejetés chez les leurs, dans leur propre patrie. Plus tard, lorsqu'il prêche sur la montagne, le sermon sur la montagne, au chapitre 6, verset 22, Luc 6, 22, il dit à ses disciples qui sont assemblés, il les avertit en fait, mais de ne pas craindre la souffrance qu'ils vont connaître à cause qu'ils sont des disciples de Jésus. Il dit, « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront et rejetteront votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez de joie parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur père agissait à l'égard des prophètes. » Donc finalement, ce que les disciples vont connaître, ce que nous connaissons encore aujourd'hui, là, c'est la haine des humains envers les prophètes que Dieu envoie sur terre. Et ce n'est pas nouveau, on l'a vu dans l'Ancien Testament. Et Jésus avertit ses disciples que lui-même, le prophète, sera haï et qu'eux-mêmes seront haïs à cause de son nom, à cause du nom du Fils de l'homme. Au chapitre 7, verset 16, Après que Jésus a opéré un grand miracle aux yeux d'une foule, là, il a ressuscité un jeune homme devant eux. Au verset 16, on voit la réaction de la foule. Il dit, « Tous furent saisis de crainte. » Et ils glorifiaient Dieu et disaient, « Un grand prophète s'est levé parmi nous. » Dieu a visité son peuple. Et ils avaient raison. Un grand prophète était venu parmi eux. Au verset 11 aussi. Chapitre 11, pardon. Luc 11, verset 49. Luc 11, 49. C'est Jésus qui dit, « C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils en tueront et en persécuteront, afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. » Donc, finalement, Jésus est envoyé comme prophète et il sera demandé des comptes à la génération qui l'aura mis à mort. Et lorsque Jésus approche de Jérusalem, il est en route vers Jérusalem au chapitre 13, verset 33. 13, 33. Jésus dit, « Il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Donc Jésus est un prophète qui se dirige vers Jérusalem. Parce qu'il ne convient pas qu'il meure hors de Jérusalem. C'est toute une réputation que Jérusalem a, mais Jésus, en tant que prophète, doit mourir à Jérusalem. Et le passage qu'on étudie ce matin au chapitre 22, et je vous invite à tourner, chapitre 22, montre aussi ce qui arrive à Jésus en tant que prophète dans les derniers moments de son ministère. Donc, il y a plusieurs sujets qu'on va voir dans ce passage, mais en toile de fond, on voit que c'est Jésus le prophète qui est le sujet. Donc, Luc 22, à partir du verset 54 jusqu'à la fin du chapitre. Luc 22, 54. Après s'être emparé de Jésus, ils l'emmenèrent et le conduirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit au milieu d'eux. Une servante qui le vit assis devant le feu le fixa et dit, « Cet homme aussi était avec lui. » Mais il le nia en disant, « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre le vit et il dit, « Tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit à l'homme, « Je n'en suis pas. » Après un intervalle d'environ une heure, un autre encore insistait. Certainement cet homme était avec lui, car il est galiléen. Et Pierre répondit, « Toi, je ne sais pas ce que tu veux dire. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite, « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras trois fois. » Et il sortit dehors et il pleura amèrement. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et ils le frappaient. Ils lui voilaient le visage et ils l'interrogeaient en disant, « Devine qui t'a frappé! » Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres blasphèmes. Quand il fit jour, le collège des anciens du peuple, les principaux sacrificateurs et les scribes s'assemblèrent et ils firent amener Jésus devant leur Sanhédrin. Et ils dirent, « Si tu es le Christ, dis-le-nous. » Jésus leur répondit, « Si je vous le dis, vous ne croirez point. Et si je vous interroge, vous ne répondrez point. Mais désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Tous dirent, « Tu es donc le Fils de Dieu? » Et il leur répondit, « Vous le dites, je le suis. » Alors ils dirent, « Qu'avons-nous encore besoin de témoignage? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. » Amen. Donc on voit ici Jésus le prophète, mais qui est malmené. On ne le voit pas en train de prophétiser, mais il a prophétisé à plusieurs reprises dans les passages précédents. Mais on voit ici le prophète qui est, premièrement, renié par les siens et par celui qui les représente, c'est-à-dire Pierre. Ensuite, un prophète qui est outragé, insulté, humilié, méprisé. Et troisièmement, un prophète de Dieu, un saint prophète de Dieu qui est condamné comme un criminel, injustement. Donc, premièrement, on voit que Jésus est saisi, il est arrêté. On peut s'imaginer qu'il est amené de force, il est conduit par les soldats, mais il y va comme une brebis muette devant ceux qui vont le mettre à mort. Et Jésus est arrêté, il est conduit par les soldats dans la maison du souverain sacrificateur pour y être interrogé. Ici, on n'a pas beaucoup de détails sur la manière dont tous les événements qui ont cours pendant cette nuit en ce qui concerne Jésus. Mais dans d'autres évangiles, on voit qu'il est interrogé à plusieurs reprises. Donc, il ne le laisse pas dormir pendant la nuit, là. Il devait déjà être fatigué rendu au matin. Et Pierre suit Jésus de loin. Pourquoi de loin? Je pense que c'est seulement dans l'évangile de Luc qu'on a ce petit détail, mais Pierre le suit. On voit que c'est le disciple courageux. C'est celui qui a marché sur les eaux à la rencontre de Jésus. C'est celui qui était prêt à sortir l'épée pour se battre, pour défendre Jésus. Et il a le courage de suivre Jésus, mais de loin. On voit tout de suite une indication de son attitude. Il commence à faire attention à lui-même. Il n'est pas aux côtés de Jésus là, pour le soutenir, il se tient de loin. Ce qui est sous-entendu, c'est qu'il ne veut pas être vu en train de suivre Jésus. Il ne veut pas qu'on puisse retracer le fait qu'il est parti du jardin de Gethsémané jusqu'à la maison du souverain sacrificateur. Mais il suit quand même Jésus. C'est comme s'il est tiraillé entre l'instinct de protection et son amour pour Jésus. Il réussit à entrer dans la cour de la maison et il va s'asseoir près du feu avec les autres. On sait qu'à cette époque de l'année, il faisait froid la nuit. C'est normal qu'il voulait se réchauffer auprès du feu. Ça montre encore une fois que Jésus faisait pitié. Il était maltraité, puis lui, il ne pouvait pas aller se réchauffer. Et il attend, il reste auprès du feu. Je suppose qu'il reste le plus près possible de Jésus pour voir qu'est-ce qui va advenir de son maître. Est-ce qu'il aura une occasion de peut-être lui venir en aide? Mais il veut savoir qu'est-ce qui va arriver, là. Mais surprise, quelqu'un le reconnaît, une servante. Et elle parle, en fait, elle ne s'adresse pas seulement à lui, mais elle parle pour que ceux qui sont assis au bord du feu l'entendent tous. Là. Cet homme était aussi avec lui, je le reconnais. Et Pierre n'a pas le temps de réfléchir, il est pris au dépourvu. Sûrement qu'il n'avait pas pensé à ce qu'il allait répondre si quelqu'un le reconnaissait, mais et il n'a pas eu le temps de réfléchir à ce qu'il va faire, il répond automatiquement. Parce que s'il avait gardé le silence, il aurait avoué finalement qu'elle avait peut-être raison. Il aurait ressemé le doute. Et il répond tout de suite. Il choisit de nier finalement ce que la femme vient de dire. Je ne le connais pas. Je ne connais pas Jésus. Peu de temps après, un autre le reconnaît aussi. Il lui dit, tu es aussi de ces gens-là. Et encore une fois, il le nie. Non, je n'en suis pas. Une heure plus tard, puis on comprend qu'il devait avoir une certaine interaction au bord du feu, mais il y a un troisième qui le démasque en constatant qu'il vient de Galilée. Puis là, il fait le lien. Qu'est-ce qu'un Galiléen fait ici à Jérusalem la nuit? C'est sûr que c'est un disciple de Jésus. On apprend dans l'évangile de Matthieu que c'est à la manière dont Pierre s'exprimait. Il avait sûrement des expressions typiques de la Galilée et ils l'ont démasqué. Puis encore une fois, il dit, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Donc finalement, « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Qui est ce Jésus-là? Il joue à l'innocent. Et c'est à ce moment précis, ce n'est pas un hasard, à ce moment précis que le coq chante. Et Jésus, qui est à ce moment-là, qui n'est pas très loin, à une distance pour le voir, se retourne et regarde Pierre. Et Pierre le voit. Donc, il n'y a pas de hasard là-dedans. Ce n'est pas une coïncidence, mais au moment où Jésus se retourne, Pierre le voit, leurs regards se croisent. Et là, c'est comme un flash. Il se souvient que Jésus avait prophétisé cela, avait prédit qu'il allait le renier 3 fois. Là, ça le pique au cœur, comme une épée qui le transperce. Et il sort dehors en courant et il va pleurer dehors amèrement. Pleurer amèrement, c'est pleurer de douleur, là, des grands remords, des regrets, la honte. Il aurait voulu effacer là, ces dernières heures-là. Mais il était trop tard. Il avait renié son Seigneur qu'il aime. Pourquoi Pierre a renié Jésus? Ben, j'ai lu différentes hypothèses. Certains ont avancé que Pierre voulait bien faire, finalement. Il croyait utiliser le mensonge pour ne pas être démasqué, pour trouver une opportunité pour pouvoir secourir son maître le moment venu. Puis, finalement, il a réalisé que le mensonge n'était pas un bon outil. Je pense pas que c'est la bonne explication. D'autres ont dit que c'est parce qu'il était probablement frustré contre Jésus. Parce que Jésus était le maître et il attendait de Jésus d'établir son royaume, là, de libérer le peuple, d'être un chef libérateur, surtout libérateur de l'oppression des Romains. Et Jésus était saisi comme si son ministère là, de libération du peuple tombait à l'eau. Là, puis Pierre était frustré de cela, puis il en voulait à Jésus. Puis c'est comme s'il dit « Non, je ne le connais pas. » Mais je ne pense pas que c'est la bonne solution non plus. S'il était vraiment frustré contre Jésus, pourquoi il est resté assis là? Pourquoi il l'a suivi? Non, je pense qu'il avait vraiment un amour pour Jésus. Il espérait que Jésus puisse s'en sortir. Mais tout simplement, il a eu peur. Ça me semble l'explication la plus simple, la plus logique. Pourtant, c'est le disciple le plus courageux. Celui qui prend les devants, là, qui très souvent est prêt à parler, prendre le risque même de dire une connerie, là, mais il représente ses confrères, puis il est prêt à braver les tempêtes. Là, et même lorsqu'il disait « Je suis prêt à aller avec toi jusqu'en prison, jusqu'à la mort », il était sincère. Là. Et dans son tempérament, je pense qu'il voulait vraiment suivre Jésus. Mais il a eu peur. En un instant, là, il a mesuré le risque pour sa propre vie et il a douté. Il a douté du fait que peut-être que Dieu pouvait le protéger ou qu'il allait avoir la vie sauve. Et il a expérimenté 2 choses, finalement. La crainte et le manque de foi. Mais les 2 sont liés. La crainte et le manque de foi vont très souvent de pair, peut-être même toujours. Et pour comprendre ce qui s'est passé, il faudrait revenir en arrière quelques heures, donc au verset 31 du même chapitre. C'est après le souper, après le repas de la Pâque, Jésus s'est adressé à ses disciples, et en particulier à Pierre. Il lui dit « Simon, Simon », qui est l'ancien nom de Pierre, « Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » Mais Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Et Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Donc finalement, ce que Jésus l'avertit, c'est que c'est sa foi qui est en jeu. Il dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. C'est là. Ce qui faisait en sorte qu'il tombait ou il restait debout. Tout était une question de s'il allait pouvoir maintenir la foi. Et grâce à la prière de Jésus, sa foi a tenu bon jusqu'à ce moment-là, jusqu'au moment où il était assis au bord du feu. Là. Mais là, la grosse tentation s'est présentée et on comprend pourquoi que c'est pas un hasard si Pierre a été soumis à ce grand stress-là. Satan voulait le faire tomber. Satan a réclamé son âme. Et Jésus a prédit à l'avance que Pierre allait revenir à lui. Il dit, lorsque tu reviendras à moi aussi, affermis tes frères. Donc, ce qui était sous-entendu, c'est que si Pierre allait revenir à lui, c'est que pendant un temps, il allait s'écarter de lui. Il allait le délaisser. Et Pierre a très bien compris ce que Jésus lui disait Mais dans sa tête, c'était impensable. Je ne peux pas revenir à Jésus, jamais je vais le quitter. Et il a compris, Pierre, ce que Jésus lui disait, c'est que si tu perds la foi, comment ça va se manifester? C'est que tu vas avoir peur de me suivre, tu vas craindre. Tu vas craindre les hommes, tu vas craindre de subir la même chose que je m'apprête à subir. Donc le lien était vraiment clair. C'est pour ça que Pierre, pour démontrer qu'il ne veut pas perdre la foi, dit qu'il n'aura pas peur d'aller jusqu'en prison et jusqu'à la mort pour Jésus. Donc la foi, vraiment, et le courage ou de ne pas craindre, ça va ensemble. Donc on doit comprendre finalement que puisque ça s'est passé comme Jésus l'avait prédit, que c'est ce qui est arrivé à Pierre. Sa foi a défailli pendant un temps, un court moment. Et il a craint. Il a craint les hommes. Il a craint de subir ce que Jésus subissait. Pourtant, Jésus l'avait annoncé à l'avance. Il avait dit qu'il allait être lié, jugé, mis à mort, mais qu'il ressusciterait. Donc finalement, toutes les souffrances que Jésus allait vivre et qu'il commençait de vivre et dont Pierre était témoin, ce n'était pas un signe de défaite. C'était les étapes qui menaient à sa mort, puis à sa résurrection. Donc si Pierre croyait vraiment à cela, il allait croire aussi toutes les autres paroles que Jésus avait prophétisées. Et Jésus a prophétisé à ses 12 apôtres qu'ils allaient être dans son royaume, qu'ils allaient même être les juges des 12 tribus d'Israël, et qu'ils verraient la résurrection, qu'ils verraient le royaume de Dieu établi. Donc, si la foi de Pierre avait été vraiment ferme, il n'aurait pas craint la mort. Et on va le voir de toute façon après le jour de la Pentecôte, lorsqu'il va recevoir le Saint-Esprit. Ça sera un nouveau Pierre, courageux, prêt à souffrir pour Christ. Et on apprend par les historiens que finalement, il est mort, martyr. Et il a persévéré jusqu'à la fin. Mais ce n'est pas facile lorsqu'on est pris de court. Et je me souviens, ça m'a rappelé en étudiant ce passage-là, à mon époque dans ma jeunesse où j'étais étudiant au secondaire, en secondaire 3 à peu près, à une grande polyvalente. Et c'était, je venais de changer d'école dans cette polyvalente-là. Et je faisais partie d'un nouveau groupe qui avait été mis sur pied pour faire une expérience, un peu comme un cobaye, expérimenter si c'était possible de faire les secondaires 3, 4 et 5 en 2 ans. Donc, c'était prévu que je passe 2 années entières avec le même groupe dans tous les cours. Et j'avais naturellement parlé du Seigneur à quelques-uns d'entre eux. Là, un jour, c'était en début d'année, là, au début de ces 2 années-là, on attendait dans le corridor que le professeur arrive, il était en retard, la porte n'était pas ouverte, donc on était peut-être 25 dans le corridor. Et là, il y en a un, celui qui était le grand parleur du groupe, là. Il s'est mis à se moquer des chrétiens, puis à rire de ceux qui ont la foi. Surtout que dans notre groupe, c'était beaucoup d'intellectuels là, qui étaient là. Puis il se moquait de ceux qui avaient la foi. Puis là, tout à coup, il lance devant tout le monde, là, ben, « Attendez, est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui est un chrétien évangélique? » Là, j'ai su, « OK, sûrement qu'il sait que je suis un chrétien évangélique. C'est pas pour rien là, qu'il pose cette question-là. Là. » Puis je voulais dire, « Oui, moi, j'en suis un. » Puis commencer à prendre la défense, finalement, de l'Évangile. Là. Mais mes lèvres sont restées fermées. Je n'ai pas été capable de parler. Mais en un instant, j'ai vu toutes les conséquences qui pouvaient survenir, conséquences mauvaises, si j'ouvrais ma bouche. J'allais être mis de côté pendant 2 ans, ridiculisé, peut-être même j'allais subir une sorte de persécution. Peut-être même que des professeurs allaient se tourner contre moi. Ça allait avoir des répercussions même pour plus tard. Tout ça, ça prend juste une seconde pour qu'on voit tout un film, tout un scénario. Là. Et j'ai été incapable de parler ce jour-là. Mais je m'en suis voulu. Je l'ai regretté beaucoup. D'ailleurs, je le regrette encore. Et ça a eu des conséquences malheureuses. Et plus tard, lorsque j'ai voulu témoigner à un collègue d'études, il m'a dit, « OK, donc tu es un chrétien, toi, mais pourquoi tu ne l'as pas dit l'autre fois? » Il se souvenait que je m'étais tué. Donc, ça l'a vraiment nui à mon témoignage. Puis je m'en suis souvenu. Heureusement, rendu au cégep, puis plus tard à l'université, faisant partie des groupes bibliques, collégiales et universitaires, grâce au Saint-Esprit, j'ai pu être assis à une table d'évangélisation et c'est sûr qu'on faisait rire de nous. Les gens se moquaient de nous, mais Dieu a pu transformer mon cœur. Mais ça reste quelque chose qui est difficile pour la plupart d'entre nous, lorsqu'on sait qu'on va être humilié, de dire « Oui, moi je suis chrétien, je crois à l'Évangile, je crois à Jésus, je crois à la Bible ». Et c'est particulièrement peut-être difficile en cette période-ci, de la crise de la pandémie mondiale. Tous les différents groupes, les organisations sont mis en sous-évaluation, et en particulier les groupes religieux. Et les chrétiens sont pointés du doigt avec toutes les religions. Entre autres parce qu'il y en a qui ont fait des mauvais coups, là. C'est-à-dire qu'ils se sont réunis sans tenir compte des avertissements, des recommandations. Ils ont été des foyers de contamination. Ils ont propagé le virus. Donc, ils n'ont pas tenu compte des soins. Il y a certains, même prédicateurs, qui annoncent que si on est de vrais chrétiens, on ne sera pas malade. Mais tout des faussetés qui font paraître les chrétiens comme des gens irresponsables, des rebelles. Mais les chrétiens sont montrés du doigt. Et certains, même journalistes, des éditorialistes, sont allés jusqu'à dire que les religieux, incluant les chrétiens, devraient peut-être être considérés comme des ennemis de l'humanité, parce qu'ils mettent en péril la sécurité de la population. Eux qui reçoivent beaucoup d'avantages et des privilèges financiers de la part de l'État. Donc, ils remettent même en question le fait qu'on devrait avoir ces privilèges-là et les droits que nous avons. Et bien sûr, ils vont taire tout le bien que l'on peut faire à la population. Le fait qu'on a un comptoir alimentaire qui est encore ouvert. Et Dieu va nous montrer si c'est possible de tenir le comptoir alimentaire vendredi prochain. Mais ça, le fait qu'on donne la nourriture, des vêtements, ou qu'on prie avec les gens qui sont en détresse et qui appellent à l'Église, ça ne fera jamais la manchette, la première page là, d'un journal. Mais il suffit qu'on fasse une chose, qu'on s'écarte d'une chose répréhensible et automatiquement on est comme crucifié sur la place publique. Donc ça devient peut-être pour certains gênant de dire qu'ils sont chrétiens auprès de collègues de travail ou des membres de la famille ou des voisins. Mais tenons bon. On ne doit pas avoir honte de notre Seigneur. Et je sais qu'on a une tendance naturelle à agir comme Pierre, c'est naturel, avec notre cœur qui est très souvent incrédule, mais maintenant nous avons cet esprit en nous. Là. Nous devrions tenir bon. Comptons sur la puissance du Saint-Esprit. Ayons l'attitude de Paul. Paul qui a été battu, qui a subi beaucoup d'outrages dans son ministère. Mais il dit quand même dans Romains 1,16, « Je n'ai pas honte de l'Évangile. » Je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Les gens se moquent de cela. Ils vont dire, voyons, la foi, là, ça peut-être donner un petit espoir individuel, mais ce n'est pas ça qui va régler les problèmes. Là. Mais nous, on sait que l'Évangile, la foi en Jésus, règle le plus grand problème de l'humanité, c'est qu'on se dirige en enfer à cause de nos péchés. Ce qu'on vit comme pandémie, le grand drame qu'on vit présentement, là, c'est rien finalement à la douleur éternelle de l'enfer. Et c'est l'Évangile qui peut sauver l'humanité de cela. Donc, n'ayons pas honte de cela. Saisissons même les occasions pour évangéliser. Levons-nous. Même la technologie peut nous aider à cela. Et lorsque nous avons des occasions de parler à quelqu'un qui est dans l'inquiétude, dans l'angoisse face à tout ce qui se passe, mais saisissons cette occasion pour présenter la paix que le Seigneur Jésus offre. Ça change vraiment notre vision du monde de savoir où on s'en va. Notre place est au ciel. Notre place est dans les mains de Dieu. Et même si on meurt demain du coronavirus, on sait où on s'en va. Et on sait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça va être même pour le bien. Dieu ne perd pas le contrôle. Donc, ce passage-là nous rappelle le rôle de prophète de Jésus. Tout s'est passé exactement comme Dieu l'avait annoncé à Pierre. C'est vraiment en tant que prophète, là, que Jésus a interagi avec Pierre. Là. Même dans son regard, il a rappelé à Pierre qu'il est le prophète de Dieu. Donc, Pierre était très triste d'avoir renié son maître, mais renié le saint prophète venu de l'Éternel. Donc, il a été un prophète renié, mais aussi un prophète outragé. Et c'est honteux de voir le traitement qu'il a subi. C'est un court passage, hein, quelques versets. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui voilaient le visage, peut-être avec un sac, je ne sais pas, ou un drap, et ils le frappaient. Puis là, ils l'interrogeaient en disant, « Devine qui t'a frappé! » Ils trouvaient ça très drôle. Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres blasphèmes. Donc finalement, ils veulent l'humilier le plus possible. Autant que c'est possible, il l'humilie. Puis on comprend que les chefs religieux les laissent faire. C'est comme s'ils ont la permission. Et ce dont ils se moquent de lui, c'est d'abord de son rôle de prophète. Jésus est reconnu comme le grand prophète dans le peuple. Tout le peuple tient Jésus comme un grand prophète. Et les soldats le savent. Et c'est de ça qu'ils se moquent en premier. En lui voilant le visage, lorsqu'ils le frappent, ils lui disent « Devine ». Littéralement, en grec, là, lorsqu'on lit la langue originale, c'est écrit « Prophétise ». Qui t'a frappé? Donc, il se moque de lui que les gens pensent qu'il est un prophète. C'est fou parce que Jésus savait exactement tout ce qui se passait, même si ses yeux étaient voilés. Il savait qu'il frappait. Et non seulement il les voyait, mais il connaissait même leur cœur à chacun d'eux, toute leur vie, tous les jours qu'il leur restait de leur vie. Et ils osaient frapper ce prophète. Et se moquer de ce prophète-là, c'est, selon Luc, un blasphème. Parce qu'il dit qu'ils ajoutaient, en plus, beaucoup d'autres blasphèmes. Donc, de se moquer du fait que Jésus est un prophète, c'est un grand blasphème. Ils méprisent le prophète de Dieu, de l'Éternel, le saint prophète envoyé par Dieu. Et ils ajoutent, en plus, beaucoup d'autres blasphèmes. Donc, Luc nous a épargnés de tout ce qu'ils ont dit contre lui, mais ça ne devait pas être beau. Et étonnamment, Jésus ne se défend pas. Même, on aurait pu l'excuser un peu, par juste la fierté humaine là, de vouloir défendre son honneur, ça aurait pu être compréhensible, mais Jésus, non, ne se défend pas. Il ne répond pas sous la colère. Il reste muet, irrépréhensible. Il reste doux. Et pourtant, eux s'acharnent sur lui sans pitié. Et Pierre a été témoin de cela. Assis au bord du feu, il a vu cela. Et c'est sûrement en pensant à cela qu'il a écrit dans sa lettre, dans 1 Pierre 2, au verset 21. Il dit, c'est à cela, en effet, que vous avez été appelés. Donc, c'est à cela que vous avez été appelés de souffrir en tant que chrétien. Ne vous étonnez pas, là, de la fournaise qui sévit parmi vous. C'est normal. C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ, lui aussi, a souffert pour vous. Et il vous a laissé un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. Lui qui, insulté, ne rendait pas l'insulte. Souffrant, il ne faisait pas de menaces. Mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Donc, Jésus, en tant qu'homme, avait une foi totale, parfaite en son Dieu. Il savait que Dieu allait juger toutes les mauvaises actions à son égard. Ça ne lui passait même pas par l'idée de juger lui-même. Il s'en remettait à celui qui juge justement. Il était sûr à 100% que Dieu le Père est juste. Lui qui a porté nos péchés en son corps, sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous puissions vivre pour la justice. Lui dont la meurtrissure nous a guéris. C'est pour nous qu'il a subi tout cela. Et Pierre ajoute, « Vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger, le gardien de vos âmes. » C'est intéressant que Pierre utilise cette expression-là, « Vous êtes retournés vers le berger. » C'est ce que Jésus lui avait dit à Pierre, « Le jour où tu reviendras à moi, affermis tes frères. » Et c'est ce que Pierre a fait. Il est retourné à Jésus. On ne le voit pas ici dans le passage, mais plus tard, il retourne à Jésus. Il affermit ses frères. C'est lui-même qui prêche le jour de la Pentecôte et qui amène 3000 de ses frères à se convertir, à être baptisés. Et la première Église est fondée. Et en un sens, encore aujourd'hui, lorsqu'on se convertit, lorsqu'on croit en Jésus, en fait, on retourne au berger. Il a toujours été notre berger, mais on était des brebis rebelles qui ne voulaient pas le suivre. Et lorsqu'on se convertit, on retourne à lui. On reconnaît qu'il a l'autorité. Avant, on ne le reconnaissait pas. Et dans sa deuxième lettre aussi, encore Pierre, dans sa deuxième lettre au chapitre 3, il dit, « Voici déjà, bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris. En toutes deux, je fais appel à des souvenirs pour éveiller en vous une claire intelligence. Afin que vous vous souveniez des prédictions des saints prophètes, du commandement du Seigneur et Sauveur transmis par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, pleins de raillerie, qui marcheront selon leur propre convoitise et qui diront « Où est la promesse de son avènement? » Et c'est exactement ce que l'on vit aujourd'hui. Et c'est ce que nos pères ont vécu dans les siècles passés aussi. Les gens se moquent des chrétiens. Que c'est une folie de vouloir se tourner vers cela, surtout en période de drame avec ce coronavirus. Ils trouvent que c'est une perte de temps de se tourner vers la foi chrétienne, de trouver en Jésus un appui. Ils se moquent de nous qu'on attend encore le retour du Seigneur Jésus, alors que ça fait 2000 ans qu'on l'attend. Ils sont pleins de raillerie. Et Pierre nous dit que ce n'est pas surprenant, on doit s'y attendre. Puisque Jésus, en tant que prophète, à son époque même, a été renié par les siens, renié même par Pierre qui a écrit cette lettre, qu'il a été outragé. Donc, on ne doit pas s'attendre à autre chose pour les disciples de Jésus que d'être outragé. Et aussi, troisièmement, il a été condamné. Après que les soldats l'ont maltraité, quand le soleil s'est enfin levé, ils n'ont pas laissé Jésus aller se coucher. Ils l'ont amené, dès que le soleil a été levé, au Sanhédrin. C'est-à-dire, c'est comme la cour suprême de justice des Juifs de l'époque. Il pouvait y avoir des petits procès, là, mais quand on se rendait au Sanhédrin, là, c'est là que c'était l'autorité finale. Bien, autant que l'Empire romain leur donnait les pouvoirs de faire ce qu'ils voulaient, là, mais parmi les Juifs, c'était la cour suprême. Et elle est composée ce jour-là de toute une délégation là, qui se présente comme juge. Là. Les anciens de la ville sont là. Donc, on comprend tous les chefs religieux, peut-être des chefs de synagogue aussi qui étaient assemblés à Jérusalem dans la période de Pâques. Les principaux sacrificateurs sont là. Les scribes sont là aussi, les experts des Écritures. Donc, pour faire un grand procès. Mais on voit bien que le déroulement du procès n'est pas équitable. Ceux qui sont là en position de juge, qui normalement sont censés chercher à connaître la vérité lorsqu'il y a une accusation, c'est le rôle du juge, là, finalement, d'entendre les différentes versions, les deux parties, et d'établir ce qu'ils pensent être la vérité et appliquer une justice. Mais eux ne se préoccupent pas de savoir quelle est la vérité, finalement. Ils ne veulent pas rendre justice. Ce qu'ils veulent, c'est interroger Jésus pour le faire tomber dans ses propres paroles. Finalement, ceux qui sont censés être en position de juge prennent le rôle de l'avocat, comme le procureur là, de la couronne, les avocats qui accusent Jésus et qui l'interrogent là, pour le faire tomber. Et ce qu'ils cherchent, là, finalement, c'est à trouver un moyen de prouver que dans son ministère, il a blasphémé contre Dieu. C'est le moyen qu'ils ont trouvé de pouvoir le condamner à la peine capitale, à la peine de mort. Donc, ils cherchent différentes façons de démontrer cela, que Jésus a blasphémé. Et finalement, on comprend qu'on n'a pas le déroulement de tout l'interrogatoire, mais ils en finissent par poser la question directe à Jésus. Es-tu le Christ? Contrairement à Pierre, Jésus ne doute pas du tout des paroles de son Père qui lui a promis qu'il va ressusciter après sa mort. Donc, il n'est pas aux prises avec une crainte où il va chercher à s'en sortir par un mensonge. Jésus n'a pas de crainte des hommes. Mais avant de leur répondre, Jésus dénonce d'abord leur mauvaise intention, leur mauvaise foi. Il ne cherche pas à savoir s'il est vraiment le Christ. Même il leur dit, si je vous le dis, là, vous ne me croirez pas. Vous ne cherchez pas réellement à savoir si je suis le Christ. Même si je vous interroge, vous ne me répondrez pas. Et on peut être convaincu que c'est réellement cela qui était dans le cœur de ces chefs religieux, parce que c'est comme ça qu'ils ont agi. On en a le rapport dans l'Évangile de Luc, dans tous les jours précédents, alors qu'il était au temple, Jésus. Et il les a même confrontés, là, par rapport au Christ, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, le Fils de David. Et même s'ils étaient bouchés, ils voyaient bien que Jésus avait toute autorité. Jamais qu'ils n'ont voulu reconnaître qu'il était le Christ. Donc, même s'il leur démontre clairement, même s'il fait un miracle devant leurs yeux, ils ne voudront pas croire. Donc, ce n'est pas pour essayer de se défendre qu'il ne répond pas tout de suite. Mais il enchaîne en disant, « Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Je pense que c'est une citation de Daniel. En tout cas, Jésus reprend l'idée dans Daniel 7, 13 à 14, où il était prophétisé. Daniel a vu, il dit, « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici que sur les nuées du ciel arriva comme un fils d'homme, le fils de l'homme. » Donc finalement, quelqu'un qui vient du ciel, céleste, mais avec l'apparence d'un homme. Un être divin devenu humain. Et il s'avança vers l'Ancien des Jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas. Sa royauté ne sera jamais détruite. Donc, autant l'expression « fils de l'homme » rappelle que Jésus est vraiment humain, en chair et en os, mais aussi rappelle toute l'autorité que Dieu confie à cet homme-là. Ce n'est pas n'importe quel homme. C'est l'homme qui reçoit toute autorité de Dieu. On lit au psaume 110 aussi, « Oracle de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. » Donc, le Juif attendait là, cet homme-là qui allait venir, qui allait recevoir l'autorité et être à la droite de Dieu. Donc, finalement, les chefs religieux, lorsque Jésus déclare cela, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Ils comprennent bien là, qu'il parle de lui. Et ils comprennent très bien qu'il est en train de faire référence aux prophéties de l'Ancien Testament. Et le lien est clair aussi avec le Christ. Alors, il lui demande de le confirmer. Tu es donc fils de Dieu? Et Jésus répond, vous le dites, je le suis. C'est un peu étrange cette manière de parler, mais je comprends que Jésus ne s'est pas présenté à Jérusalem en déclarant, je suis le fils de Dieu. Ça aurait soulevé une émeute, une rébellion peut-être même contre Rome. Et Jésus n'est pas venu soulever la foule, se faire nommer roi. Il est venu annoncer l'Évangile, le salut des âmes, venu guérir l'âme de ceux qui sont malades, venu mourir pour son peuple. Donc, il ne s'est pas présenté en tant que fils de Dieu, mais il ne l'a jamais nié. Et là, c'est sorti de leur propre bouche. Tu es donc le fils de Dieu? Et Jésus le confirme. Oui, je suis le fils de Dieu. Donc, ceux qui affirment que Jésus n'a jamais prétendu être le fils de Dieu dans les évangiles, là, c'est faux. Ce n'est qu'un des exemples parmi plein d'autres. Mais il n'est premièrement pas revenu sur terre pour être reconnu et glorifié en tant que fils de Dieu. Il est venu mourir pour nous. Mais ce jour-là, il reconnaît, il le confirme à ceux qui l'accusent. Je suis le fils de Dieu. Donc, ils n'ont plus besoin de chercher un prétexte, finalement, de trouver une passe pour démontrer qu'il a blasphémé. Il vient de blasphémer devant eux. J'imagine qu'ils ont tressailli de joie. Bien, il y en a un qui a joué la comédie puis qui a déchiré ses vêtements. Mais ils étaient contents. Enfin, ils peuvent saisir Jésus. Puis là, ils sont sûrs qu'ils vont être autorisés de le mettre à mort. Et en tant que juge, là, ils étaient les avocats qui accusaient. Maintenant, ils retournent à la position de juge et ils rendent leur verdict. Là. Il est coupable. Coupable de blasphème contre l'Éternel. Et il est passible de mort, sans appel. Dans un sens, ils ont raison. Si vraiment Jésus n'est pas celui qu'il prétend être, c'est un grave blasphème. Il se fait passer pour le Christ, donc le Messie, celui que Dieu avait annoncé dans l'Ancien Testament qu'il viendrait, un homme oint de l'Éternel. Le Messie, ça veut dire oint de Dieu, le Christ, pour régner en tant que roi sur son peuple, pour amener un air de paix durable, enfin amener la libération pour son peuple. Les gens attendaient le Christ. En plus, Jésus dit qu'il est le Fils de l'homme. Donc, l'homme à qui Dieu donne la puissance pour juger, le Tout-Puissant, là, celui qui est assis à la droite de Dieu. Et en plus, il est le Fils de Dieu. C'est pas n'importe quoi. Là. C'était très clair pour les Juifs à l'époque. Là. Ça veut dire qu'il est Dieu, le Dieu unique en la personne du Fils. Jésus prétend tout cela à la fois. Finalement, c'est une seule et même personne qui a tous ses titres. Donc, si réellement ce qu'il prétend est faux, c'est un grave blasphème. Et effectivement, il méritait de la peine de mort. Mais c'était vrai. Donc, ils n'ont pas raison. Ils ont tort et c'est un tort éternel. Et finalement, même, ils seront jugés devant Jésus même, qui est le Fils de l'homme qui a reçu tout pouvoir pour juger. Un jour, les rôles seront renversés. Là. C'est eux qui vont passer en jugement devant lui. Ils seront jugés pour cela, pour ne pas avoir cru à sa déclaration. Et même si on se disait, mais ce n'est pas de leur faute, là, ils ne pouvaient pas vraiment savoir si c'était vrai que Jésus, ce qu'il disait. Mais Jésus l'a démontré à maintes et maintes reprises qu'il était vraiment celui qui devait venir. Il a accompli toutes les prophéties dans l'Ancien Testament qui annonçaient sa venue. Il n'y avait aucun doute à y avoir. Donc, ils sont vraiment coupables d'incrédulité. Donc, c'est l'identité, finalement, de Jésus en tant que prophète qui est révélée, là. Ici, d'une manière très claire. Ce n'est pas n'importe quel prophète. C'est le prophète attendu. Le dernier, celui qui va être l'auteur de tout le Nouveau Testament, parce que tous les apôtres ont écrit en son nom. C'est le dernier prophète. Dieu nous parle par lui dans ces temps qui sont les derniers. La parabole des vignerons qu'on a étudiée au chapitre 20 enseignait la nature de ce dernier prophète-là. On voyait dans cette parabole-là le propriétaire qui envoie un après l'autre ses serviteurs pour aller récolter finalement les fruits de sa vigne, les bénéfices. Et chaque serviteur qu'il envoie est maltraité, humilié, et c'est de pire en pire. Et ça symbolise finalement tous les prophètes que Dieu avait envoyés à son peuple. Et le dernier que le propriétaire de la vigne envoie, c'est son fils bien-aimé. Il dit, celui-là, au moins, ils vont l'écouter. Et il le maltraite de manière encore pire que les serviteurs qu'il avait envoyés avant, et il le tue. Ça symbolise finalement Jésus, qui, à la manière de tous les prophètes avant lui, n'est pas reçu, est maltraité, méprisé, mis de côté, en particulier par les chefs religieux. Ceux qui sont censés diriger le peuple à suivre l'Éternel, ce sont eux qui rejettent les prophètes qui leur sont envoyés systématiquement. Mais le dernier prophète qui leur est envoyé, c'est le fils bien-aimé du propriétaire du peuple, de Dieu. Ils seront jugés pour cela. Donc finalement, le prophète que nous adorons, c'est vrai que Jésus est un prophète. Un prophète qui a été renié par ses disciples, qui a été renié même par le disciple qui est le plus courageux d'entre eux, là, et qui est très souvent même, encore aujourd'hui, renié et foulé aux pieds sur la place publique. Ce prophète-là aussi qui est très souvent méprisé, comme dans cette nuit de son arrestation, encore aujourd'hui, le prophète que nous adorons est très souvent méprisé. Il y a de la haine pour lui qui est souvent inexplicable. Et il y a beaucoup de blasphèmes faits à l'encontre de Jésus. Même on sort des émissions sur Netflix pour ridiculiser Jésus. Toutes sortes de blagues ou de parodies. Et les chrétiens sont ridiculisés avec lui. Le prophète qu'on adore aussi a été accusé par son peuple. Il disait cette semaine dans un blog, quelqu'un qui se moquait de Jésus. Il disait, je vois pas pourquoi il y a plein de gens qui le suivent aujourd'hui. Son propre peuple n'a pas voulu de lui et ils l'ont crucifié. Donc, le fait qu'il a été condamné, ça s'ajoute même à la honte qu'il a dû subir, l'opprobre. Mais tout cela, il l'a vécu pour nous. Ce prophète-là qui a accepté de subir tous ces outrages-là, c'est pour nous qu'il l'a subi. C'est pour vous si vous mettez votre foi en Jésus. Si vous n'avez pas encore aujourd'hui cru en Jésus, croyez en lui. Croyez qu'il est mort pour vous, pour payer la dette de vos péchés. Il vous lavera de vos péchés, il vous donnera la vie éternelle. Et ce n'est pas une blague, mais c'est une grande bénédiction que l'on reçoit, cette paix. La paix d'être réconcilié avec Dieu. Et c'est une paix qu'on peut déjà goûter même sur cette terre, dans les pires moments qu'on peut vivre, même éventuellement peut-être atteint de la maladie. Mais une paix qui nous fait persévérer jusqu'à la fin. Mais continuons à suivre le Seigneur. Ne pas le renier, ne pas avoir honte de lui, ne pas avoir honte de son évangile. Et je vous invite à prier avec moi. Seigneur Dieu, nous sommes sûrement prompts à la faiblesse. Nous ne pouvons pas compter sur nos propres forces pour tenir bon jusqu'à la fin. Si Pierre n'a pas été capable de tenir alors qu'il avait pris de bonnes résolutions, mais qui sommes-nous pour tenir? Nous comptons sur toi, sur ta grâce. Rappelle-nous constamment que nous avons besoin de toi. Renouvelle en nous ce zèle pour parler de toi sans honte, pour nous comporter avec un bon témoignage chrétien, pour ne pas répondre aux insultes par l'insulte, ne pas répondre à la violence par la violence, ne pas chercher même à défendre notre honneur, mais chercher à défendre ta réputation, ta gloire par notre comportement irréprochable. Donc, profite même de cette occasion où nous avons peut-être un peu plus de temps pour méditer à la maison. Sonde nos cœurs et montre-nous si on se dirige sur une mauvaise voie. Profite de cette occasion pour nous corriger, nous instruire, nous avertir, nous ramener à toi aussi si on s'est éloigné. Et nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui ont délaissé la foi dans les dernières années, même peut-être depuis un bon bout de temps, ramène-les à toi. Ramène ces brebis errantes à leur berger. Fais-nous grâce, Seigneur, et de la miséricorde envers ton peuple. Nous te le demandons au nom de ton Fils, Jésus, qui règne, qui est assis à ta droite et à qui tu as donné tout pouvoir. Amen.